Les veilleurs de l'info.
Les jeunes éclairent l'info.
Place à la seconde partie de cette émission autour du rôle du journaliste et de la liberté d'information aujourd'hui.
Pour répondre à nos questions, nous recevons Stéphane Iglesias, journaliste à Radio France, Emmanuel Riondet, journaliste pigiste travaillant notamment pour Mediapart, Mediacité et le Courrier de l'Atlas, Alexandre Fontaine, journaliste et AED au lycée professionnel du Mirail, et Pierre Bizalion, dessinateur de presse. Merci à tous les quatre.
Ils sont interviewés par Leslie, Zakaria et Fatima.
Dans votre métier, quelles sont les limites à ne pas franchir? Et si vous les avez franchies, est-ce que vous avez déjà été censuré, monsieur Iglesias?
Ben, les limites à ne pas franchir, c'est déjà ne pas dire le contraire de la réalité. C'est ne pas donner une fausse information qu'on n'ait pas vérifiée chez au minimum deux interlocuteurs différents, voire trois. Les limites à ne pas franchir, c'est ce que garantit la loi, c'est-à-dire ne pas être raciste, évidemment, mais je ne crois pas qu'un journaliste le soit, autrement il serait viré du média pour lequel il travaille, du moins je l'espère.
Ça dépend des médias.
J'en ai un en tête, je pense à Valeurs Actuelles, mais bon, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, mais j'y pensais quand même un peu. Ou Minute, ce sont des médias d'opinion, mais si ces médias d'opinion sont contraires à la loi, je considère personnellement, mais ce n'est qu'une position personnelle, que ces médias devraient être fermés et dissous. Au même titre qu'on dissout des associations qui ne respecteraient pas la loi républicaine. Voilà, la seule limite, c'est ça. Et le respect des interlocuteurs que l'on rencontre, ne pas transformer, parce que c'est possible en radio. Comme nous, on monte, vous allez le faire pour cette émission, vous allez monter les propos des gens. Vous pouvez très bien prendre ce que je vous dis, le monter complètement différemment, et j'aurai l'impression que vous ne reflétez pas du tout ce que je vous ai dit. Vous avez le pouvoir de faire ça, avec vos ciseaux numériques, hein, sur l'ordinateur. Donc voilà, la limite, c'est ça.
Et monsieur Riondet, quelles sont les limites à ne pas franchir?
J'abonde à ce que vient de dire Stéphane. Il y a des limites, il y a le cadre de la loi, en vérité. Alors nous, une des limites à laquelle il faut faire attention dans nos métiers, c'est ce qu'on appelle la diffamation. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, qu'on en fait le portrait, qu'on lui donne la parole, il faut bien veiller à retranscrire ce qu'il nous a dit. Ça, c'est vraiment un souci qu'il faut avoir, qui est important. Il faut vérifier les infos, ça fait partie du boulot. Mais en termes de limites, elles sont juridiques. C'est-à-dire que de toute façon, si on diffame, il y a des procès. Et si on a vraiment diffamé, on les perd. Et puis c'est normal. Donc les limites, elles sont là. Après, il y a des limites qui ne sont pas des limites, qui sont les contraintes de chaque média, qui a ses propres lignes éditoriales, ses options, ses thématiques, ses lignes éditoriales qui peuvent être thématiques, politiques, ce qu'on veut. Il y a des médias public comme Radio France, qui sont généralistes et qui traitent un peu de tout, mais où il y a quand même, selon les services, des arbitrages sur ce qu'on traite ou pas. Donc ça, c'est des limites, mais qui sont des limites liées au métier lui-même, à la profession. Après, la limite à ne pas franchir, elles sont, encore une fois, juridiques et voilà. Pour être un peu plus généraliste, nous, on doit veiller, en tant qu'individu journaliste, à ne pas franchir les limites et à bien faire notre métier. Il faut qu'on ait un regard aussi sur la façon dont les autorités encadrent tout ça. Et clairement, aujourd'hui, on est dans une période, en France, mais pas qu'en France, hein, partout, qui est plutôt une régression. Là, on est plutôt en train d'essayer de contenir les journalistes, de les border, de les empêcher d'aller trop loin, de trop filmer. C'est ce qu'on a vu en France avec la sécurité globale. Sur cette histoire du secret des affaires, il y a clairement des intérêts en jeu de gens qui n'ont pas envie qu'on mette le nez dedans. Donc là, il nous appartient à nous d'être vigilants, de se mobiliser, de s'organiser. Parce que ça, c'est des régressions. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est une vraie mission d'intérêt public, l'information. Donc il faut qu'on puisse l'exercer pour tout le monde. Et quand on limite la possibilité des journalistes de faire leur boulot, on limite l'accès de la population à tout un tas d'informations. C'est un vrai problème public et politique.
Est-ce qu'il y a des limites que vous avez franchies et par la suite vous avez été censuré?
Alors moi, non. Alors des limites que j'ai franchies, je viens de répondre, j'ai veillé à ne pas le faire. Moi, c'est, j'ai pas eu de... Voilà. Enfin, j'ai jamais eu de procès, que je sache. Est-ce que j'ai été censuré? Non, mais moi, j'ai fait le choix aussi d'être indépendant, puisque moi, je suis journaliste pigiste par choix. Avant, j'étais salarié, c'est moi qui l'ai quitté. Et j'ai toujours veillé à travailler pour des journaux avec lesquels je me retrouvais. C'est pas d'ailleurs forcé, c'est Mediapart, je ne sais pas si c'est considéré ou pas, je ne sais rien, comme un journal d'opinion. C'est un journal qui s'engage, c'est quand même un journal qui fait du journalisme, comme Mediacité. Je vais dans des journaux avec qui, globalement, sur l'éditorial, je suis raccord, pas dans tous les détails et tout, mais ça ne me gêne pas de bosser pour eux. Donc ça limite le risque d'être censuré. C'est qu'en gros, moi, quand je propose des sujets, je sais à qui je les propose, ils savent quel type je vais leur proposer. J'ai rarement eu des censures. Ça m'est arrivé sur des sujets, j'avais travaillé pour un journal communiste au début des années 2000, Regard. J'étais parti en reportage en Algérie et j'avais ramené un papier assez critique sur le pouvoir algérien. Là, j'ai été confronté quand même à quelque chose qui pouvait s'apparenter à une censure. Et c'était pas la ligne du parti communiste, hein, qui était en partie propriétaire du journal. Et il l'avait fait savoir au directeur du journal, en leur disant « C'est quoi ce papier de Riondé ? On ne peut pas passer ça. » Et là, moi, j'étais petit journaliste et le directeur de rédaction avait été réglo. Il avait répondu en disant « Si, on le passe, nous, on a un journal et... » C'est pas la ligne du parti, mais c'est un reportage sur le terrain, donc on peut en débattre et tout ça. Il avait défendu, mais là, il y avait clairement des gens qui, politiquement, auraient voulu censurer ce papier-là. Voilà, moi, ça m'est arrivé dans ce cadre-là. C'est la seule expérience que j'ai de souvenir comme ça de censure. Voilà.
Merci pour votre réponse, M. Riondé. Et pour vous, M. Fontaine ?
On a les limites juridiques, comme ça a été cité, mais surtout aussi, on a les limites déontologiques pour notre métier, où on doit faire quand même attention à ce traitement de l'information. À titre d'exemple, c'était BFM TV qui avait traité de la pitié salpêtrière lors d'une manifestation Gilets jaunes, où, première information qui était sortie au plus rapide pour être les premiers, c'était les Gilets jaunes ont enfoncé les barrières de la pitié salpêtrière et ont essayé de rentrer de force dans l'hôpital. Sauf que du coup, après vérification de l'information, ça a mis seulement quelques heures. Ça n'a pas pris beaucoup de temps techniquement. Enfin, dans le journalisme, ça prend beaucoup de temps, quelques heures apparemment. On a vérifié qu'en fait, les manifestants étaient pris en as, c'est-à-dire qu'ils étaient pris en sandwich par les forces de l'ordre. Ils ont été gazés. Et en fait, ils n'ont trouvé comme seul recours que d'essayer de rentrer justement sur le terrain, puis dans l'hôpital, pour échapper aux gaz des policiers. Et bah, dans un premier temps, on leur a dit « Ah, ils ont essayé de forcer l'hôpital et de faire des dégâts. » Et dans un second temps, une fois l'information vérifiée, on découvre qu'en fait, ils ont juste essayé de se protéger des gaz. Et donc, c'est vraiment la déontologie, essayer de vérifier l'information, ne pas sauter sur l'information, ne pas essayer de l'acheter non plus. Ça peut être tentant d'avoir une information qui est proposée par quelqu'un et qui est achetée. Ça m'était arrivé à La Réunion, sauf qu'après quelques recherches, on découvre que c'est juste pour une question politique qu'on nous a donné l'information et qu'on voulait nous la vendre. C'était pour couler quelqu'un, donc dans ce cas-là, on se refuse quand même à la récupérer et à l'éditer. Donc oui, juridique et surtout déontologique.
Et pour vous, M. Bizalian, quelles sont les limites à ne pas franchir ?
Les limites qu'on se fixe. Vous avez les uns et les autres rappelé qu'il y a des limites juridiques, il y a des limites éthiques, déontologiques, il y a aussi des limites personnelles. Bon, dans le dessin, moi, je ne veux pas me fixer de limites. Mais en fait, la question que vous posez, c'est celle de l'autocensure. C'est pas autre chose hein, comme question que vous posez. Alors effectivement, moi, je me suis autocensuré, mais un nombre de fois incalculable. Parce que quand on fait un dessin pour le journal de Mickey, où on fait un dessin pour la Dépêche du Midi, Sud-Ouest, La Croix, les journaux pour lesquels j'ai travaillé. Quand on fait un dessin, on s'adresse à un public qui est totalement différent. Donc ce qui peut passer dans Sud-Ouest ou La Croix ne va pas passer forcément dans un autre journal. Donc l'autocensure, elle se fait parce que moi, je n'ai pas envie de travailler pour rien. On me commande un dessin sur un thème. Bon, ça prend du temps, je ne vais pas faire quelque chose dont je vais être sûr qu'ils vont le refuser. Alors ça m'arrive de temps en temps, puisque maintenant je travaille sur la presse un peu plus professionnelle, d'essayer de repousser mes limites en me disant « ouais, je vais leur faire ça, faire de l'humour complètement décalé ou un peu trash pour voir jusqu'où ils vont aller ». Alors après, c'est la réponse de la rédaction. Les limites de la liberté d'expression, c'est la limite que va fixer le rédacteur en chef ou la ligne éditoriale du journal qui vous embauche, quoi, qui vous fait travailler. Mais sinon, il ne faut pas se fixer de limites.
Merci pour vos réponses.
Quelles sont pour vous les principales difficultés du métier de journaliste aujourd'hui, Monsieur Riondé ?
Alors, on va essayer de faire court. Ça recoupe beaucoup de choses qui ont été dites, mais les principales difficultés, je pense que c'est qu'on évolue dans un monde où tout s'est beaucoup accéléré. Donc, les nouvelles arrivent de partout, notamment par cet immense torrent qu'est Internet. Et elles arrivent y compris de Alors, de personnes qui ne sont pas journalistes, mais ça, c'est pas grave. Pour moi, le donner de l'information, c'est pas forcément réservé aux journalistes. Mais une des grandes difficultés, c'est d'identifier d'où elles viennent et de faire le tri entre les infos qui défendent des intérêts privés, celles qui ont vocation à informer le public. Et donc, une des difficultés de notre métier, c'est d'assurer au public que nous, on garantit ça. Qu'en tant que journaliste, nous, les infos qu'on donne, c'est pas des fake news, pour prendre un terme que sûrement vous connaissez bien, votre génération, et que donc on fait le boulot. Et c'est peut-être plus dur qu'avant, parce que tout le monde peut prétendre donner de l'info et en délivrer, ça arrive de partout. Donc il y a cet environnement-là qui est un peu, je trouve moi, un peu parfois, dans lequel il faut arriver à trouver sa place. Et une autre difficulté, beaucoup plus concrètement, moi je suis pigiste, donc ça veut dire que je travaille pour plusieurs journaux salariés, c'est que c'est un métier qui se précarise, pour parler des conditions économiques. Et donc pour des jeunes qui démarrent, enfin là peut-être Alexandre pourra mieux en parler, mais et même pour des vieux qui continuent. Mais c'est, ouais, ça se précarise, donc il y a aussi cette difficulté d'arriver à gagner sa vie en faisant correctement son boulot. Et c'est ce que Stéphane l'a évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai échappé à ça parce que j'ai un peu de bouteille maintenant, mais je pense qu'aujourd'hui, démarrer dans la presse, jeune journaliste, c'est prendre le risque de se retrouver confronté à des rédactions qui vont vous dire « Allez, tu te dépêches, tu vas vite, parce que... » Et tenir les deux, je pense que c'est ça un peu qui est un peu compliqué aujourd'hui.
D'accord, merci pour votre réponse. Et pour vous, Monsieur Fontaine ?
Alors oui, précarité, c'est vraiment un gros souci chez nous. Je crois qu'on était en 2019 35 000 ou 36 000 journalistes, pigistes. Et c'est vrai que le Saint Graal, c'est le CDI. On cherche tous à l'avoir, mais c'est très compliqué. D'autant plus que l'information va très vite. Il faut la traiter. On nous demande de papier. On nous demande d'aller aussi très vite dans la publication. Et des fois, pour pouvoir vivre, il faut travailler pour 5, 6 revues différentes. Et c'est là où ça se complexifie vraiment pour nous. Donc déjà la précarité. On parlait de l'autocensure aussi. Et malheureusement, même les plus grands papiers, des fois, se plient à cette autocensure. Notamment, c'était quasiment un an et demi de ça. Le New York Times International ne publie plus de caricatures. Oui, je laisserai développer là-dessus. Donc c'est une forme d'autocensure. Et puis on s'autocensure même en dehors des médias, c'est nous-mêmes, parce qu'on a aussi cette volonté de traiter certains sujets et pas d'autres. Et quand on n'a pas le luxe de pouvoir choisir les médias avec lesquels on veut travailler, bah des fois on doit se plier justement à certains sujets qui nous déplaisent ou la façon dont on nous demande de les traiter, le fameux angle qui peut faire débat aussi bien pour nous qu'au sein d'une rédaction. C'est autant de difficultés qu'on retrouve dans le métier. Et une dernière chose, c'est les écoles de journalisme qui ont souvent tendance à faire miroiter de belles choses ces dernières années. Quand on rentre dans une école, incroyable métier, un métier de cœur, un métier de passion, mais qui, selon certains, peut justifier qu'on puisse faire plus de 70 heures de travail par semaine. On peut justifier qu'on peut oublier sa vie privée, pas mal de choses. Sauf qu'on ressort de ces écoles-là, on découvre toute la réalité, la précarité financière, sociale, parce qu'on vit finalement qu'avec sa rédaction ou ses collègues. Et c'est vrai qu'on oublie de nous le dire, on oublie de nous montrer le revers de la médaille pour ce si beau métier.
Et pour vous, monsieur Bizalou ?
Moi, j'ai pas plus de difficultés à exercer mon métier qu'avant. Mais il se trouve que je suis donc, je le répète, dessinateur de presse. Et donc, les contraintes ne sont pas les mêmes. La difficulté, c'est surtout dû aux exigences, aujourd'hui, des rédactions qui veulent que ça aille de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de temps pour pouvoir dessiner, trouver une idée et l'envoyer. Ça, c'est une des difficultés. L'autre difficulté, c'est que, effectivement, avant, on était jugé par un rédacteur en chef ou un journaliste qui commandait un dessin et qui disait « ça va pas ». Maintenant, on se heurte à un autre jugement qui est celui du tribunal médiatique et d'Internet. Et donc, on en revient tout à l'heure à l'autocensure et ce qui s'est passé au Washington Post. La chose était très simple, c'est-à-dire qu'ils ont pris un dessin sur une agence qui est un de mes confrères que je connais, qui est portugais, qui s'appelle Antonio Antunes, et qui a fait un dessin avec Netanyahou, avec Trump, qui a été jugé, après publication, comme antisémite. Et il y a eu tellement une levée de boucliers que ils ont décidé de ne plus jamais passer de dessin de presse dans le journal. Chose qui est arrivée, nous, en France, il n'y a pas longtemps, avec Xavier Gorce, qui travaille pour Le Monde, et qui a publié un dessin que je personnellement je trouvais très drôle. Et là, il y a le tribunal médiatique qui s'en est mêlé, à tel point que Le Monde a publié des excuses, et Xavier Gorce a considéré qu'il n'était pas soutenu par la rédaction, et donc il est parti. Donc la difficulté, elle va venir de plus en plus de savoir si les rédactions vont se soumettre à la dictature d'Internet, et des réseaux sociaux, et des lobbies. C'est ça la difficulté. Nous, la difficulté, elle n'a pas changé. Au contraire, elle s'est améliorée. Maintenant, moi, je peux faire un dessin à minuit, l'envoyer à 1h du matin, et puis être tranquille. Avant, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Il fallait que je fasse mon dessin, que je le poste, que je prenne la bonne levée, que j'attende 2 ou 3 jours, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup plus de facilité technique aujourd'hui pour exercer son activité, mais j'ai l'impression que la pression, elle vient d'ailleurs maintenant. Voilà.
Merci pour votre réponse. Du coup, je vous repose la question, monsieur Iglesias. Quelles sont les difficultés du métier de journaliste aujourd'hui ?
Alors, moi, j'ai la chance d'être en fin de course, mais pour les jeunes journalistes, la principale difficulté, c'est déjà de trouver un emploi. Parce qu'il y a, on le constate y compris localement, il y a des choses qui ont fermé. Le bureau, par exemple, d'une chaîne comme M6 a fermé parce que M6 et RTL, c'est la même maison, et il y aurait l'idée que les journalistes puissent travailler à la fois pour RTL et pour M6. Tout comme les journalistes de RMC travaillent aussi pour BFM TV, qui est le même groupe. Mais au bout d'un moment, ça a ses limites, ce genre de choses, parce que forcément, du coup, on limite le nombre de sujets possibles, on limite le choix des sujets. Et puis, par exemple, quand je suis rentré à Radio France, on crée une radio locale tous les 3 ou 4 mois. Donc forcément, mécaniquement, ça ouvrait un certain nombre d'emplois. Alors qu'aujourd'hui, en fait, un journaliste qui va rentrer sur le planning de Radio France, donc des remplaçants, un journaliste pigiste, il va rester pendant 5, 6, 7, 8 ans dans ce statut précaire, jusqu'à espérer un jour être intégré. Or, là, par exemple, Radio France est en train de dégager 400 emplois. Alors, ils ont recréé un petit peu derrière. Ils ont recréé 183, mais uniquement dans le numérique. C'est-à-dire, c'est pas des emplois de terrain, de reporters qui vont vous rapporter de l'information. Ce sont des gens qui vont aider, effectivement, les journalistes de terrain à mettre en valeur leur travail, mais il va manquer de journalistes de terrain, c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est dangereux, je rejoins ce que disaient mes confrères, parce que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe déjà, d'après ce que me disent des confrères de la Dépêche du Midi. Ils ont créé aussi un grand plateau à la Dépêche du Midi. Bon, en fait, il y a des gens qui, toute la journée, scrutent les réseaux sociaux à la recherche d'informations qui vont recouper pour faire des papiers, mais sans bouger, en fait, de leur salle de rédaction. Donc, c'est très grave, parce que nous, notre métier, c'est justement d'aller vérifier l'information, d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de l'information, et on va perdre, j'allais dire, la chair de ce qui fait notre passion, c'est justement d'aller à la rencontre des gens. Si on est derrière un téléphone et sur les réseaux sociaux, mais je vais pas dire que c'est pas du journalisme, parce qu'il y a des gens qui en vivent, mais c'est pas l'idée que je me fais du journalisme.
D'accord, merci pour votre réponse.
Je me permets juste d'ajouter, à titre d'exemple, effectivement, j'avais trouvé un emploi à La Réunion dans une chaîne qui s'appelle Antenne Réunion, qui fait de la télé, et ils ont l'info.re qui font de l'internet. Et c'est vrai que le premier jour, j'ai passé 6 heures derrière un ordinateur à écrire 5 articles, on était sur décembre, donc pas mal de Noël. Et à la fin, je leur dis, mais du coup, ça va être ça, mon travail? Et ils m'ont dit, bah oui, on t'enverra pas sur le terrain. Bah, du coup, le lendemain, je les ai prévenus que je ne reviendrai plus, parce qu'on perd l'essence même du journalisme. Et cette digitalisation, ça a été un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, parce qu'on remplace de plus en plus de journalistes par les communicants, la communication, cette frontière poreuse qu'on a avec le journalisme. On les remplace de plus en plus, à titre d'exemple, dans la rédaction de Science et Vie, où on a la moitié qui s'est vue dégager gentiment pour être remplacée par des gens qui ne sont pas journalistes scientifiques, qui sont juste des gens qui sont des communicants et qui vont rédiger de simples articles. Et on perd en essence, on perd en force dans ces papiers-là.
Oui, je voulais juste donner un petit exemple. Vous savez qu'il y a eu des militants d'extrême droite, de l'Action française, qui se sont introduits au sein du Conseil régional. Moi, le sujet a été traité depuis Paris, avec les réseaux sociaux, avec les images et les sons qu'ils ont trouvés sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais eu un débat avec eux. C'est vrai que je me suis un peu engueulé en leur disant, écoutez, il y a 8 militants qui ne sont pas arrivés dans la salle. Alors, je ne dis pas que c'est pas grave. Je dis simplement que, en donnant de l'importance à cette information, en fait, ces militants ont réussi leur coup, parce qu'ils n'étaient que 8. Ils ne sont même pas arrivés à la salle de réunion du Conseil régional pour perturber la réunion. Mais le fait que tous les élus envoient des tweets partout, ça a alerté évidemment toutes les rédactions. Du coup, c'est devenu un sujet qui a fait le buzz médiatique. Et on peut dire que l'opération qui était ratée au départ, grâce aux médias, est une opération réussie.
Et pour vous, quelles sont les qualités pour faire votre métier, monsieur Iglesias ?
La curiosité, le travail et la curiosité en guardée.
Et pour vous, monsieur Bizalion ?
Ah ben, exactement pareil. La curiosité, ça a été mon principal moteur. Après, l'imagination. Effectivement, en tant que dessinateur, on a besoin d'avoir un peu d'imagination. Et puis, l'information. C'est-à-dire que la curiosité se stimule aussi par la recherche d'informations, écouter l'information. On dirait pas quand on voit mes petits Mickey et ainsi de suite, mais moi j'ai été un drogué de l'information. J'écoutais la radio toute la journée. Ça a été une source d'inspiration absolument incroyable parce que le média radio, on est autour de la radio, il est formidable. Il peut aborder tous les sujets, quels qu'ils soient. Alors, on n'a pas l'image, ok, mais moi, je m'en fous, c'est moi qui les fais, les images. Voilà.
Je vais ajouter un truc, je peux dire que la radio m'a sauvé, parce que moi, j'étais pensionnaire de 8 ans à 18 ans. J'étais très triste d'être en pension. Et c'est la radio qui m'a sauvé, en fait, parce que sous mon oreiller, j'écoutais en cachette, évidemment, des surveillants qui étaient dans le dortoir, la radio, et c'est ce qui m'a permis de m'évader et d'imaginer un autre monde et une autre situation que celle que je vivais, qui était plutôt pas très drôle.
Et pour vous, Monsieur Fontaine, quelles sont les qualités pour faire votre métier ?
Je les rejoins là-dessus, vraiment, le maître mot, c'est la curiosité. Il faut être ouvert à tout ce qui nous entoure, à tous les sujets. Je pense que sans curiosité, on ne pourrait pas faire notre métier au quotidien. Quand on se retrouve justement un jour sur une manifestation, mais que le lendemain, on est dans un champ agricole à interviewer un agriculteur sur ses difficultés, et que le lendemain encore, on est sur un autre sujet qui n'a aucun rapport en économie. Donc vraiment, le maître mot, la curiosité, et peut-être revenir sur ce mot qu'aiment bien utiliser les écoles de journalisme, la passion, parce que c'est vrai que c'est ce qui anime pas mal d'entre nous aujourd'hui, aller sur le terrain, découvrir, raconter, je pense que c'est tous ces mots qui font l'ensemble du mot valise passion, donc curiosité et passion.
Alors curiosité, il faut ça, il faut aussi, je pense, l'envie quand même d'aller sur le terrain. Pour moi, c'est une qualité importante, ça peut se discuter, mais pour moi, ça en est une. Et puis l'envie aussi de, quand on y va, mais il faut avoir le temps, mais d'aller gratter derrière la surface aussi. On est quand même là pour donner de l'information, donc il faut faire le boulot. Et donc il faut avoir cette préoccupation-là aussi. Ouais.
D'accord, merci pour vos réponses.
Dernière question. Comment le métier de journaliste va-t-il évoluer ? Monsieur Bizalion.
Je répète que je suis un peu à part, hein, parce que je suis avant tout dessinateur. J'ai une conception aussi du journalisme. Comment il va évoluer ? Je pense que, bizarrement, les gens vont aller moins sur le terrain pour recueillir des informations. Ils vont plus rester devant leur ordinateur et en tirer des papiers. Je crois que l'évolution, elle a déjà commencé depuis bien une dizaine d'années. Ce qui rapporte, c'est l'information, mais ce qui coûte cher, c'est le journalisme.
D'après vous, Monsieur Riondé ?
Je ne sais pas comment il va évoluer, on verra, mais je sais à quoi il faut être attentif. Là, en ce moment, clairement, on est dans une période un peu partout, avec des pouvoirs un peu autoritaires qui arrivent, plus ou moins autoritaires, en tout cas plus qu'il y a une quinzaine d'années, y compris dans les démocraties occidentales. Et donc, il faut qu'on soit vigilant sur ça, pour toutes les raisons qu'on a eu l'occasion de dire sur les deux plateaux, c'est que c'est un métier important, il a une fonction qui est importante dans une société. Et donc, il faut que les journalistes, mais pas que les journalistes, et on l'a vu un peu avec la loi sécurité globale, il y a les journalistes, qui n'est pas un métier qui se mobilise beaucoup, qui a une grande culture de la mobilisation collective, sont un peu descendus dans la rue, mais il y a aussi surtout des citoyens qui sont allés pour dire qu'eux non plus, en tant que citoyens, ils ne voulaient pas qu'on fasse ces contraintes-là au journalisme. Donc, il faudra être attentif à ça. Et puis après, l'évolution, elle va aller de toute façon vers de plus en plus de numérisation. D'une part, c'est comme ça. Là, des fois, il faut prendre acte d'évolution. Voilà. Et d'autre part, je me rappelle quand ça a commencé il y a 20 ans, on disait c'est la fin du papier. Ça n'a pas été la fin du papier. Alors ça l'a impacté. Si on prend une rédaction comme Le Monde, je crois qu'aujourd'hui, plus de la moitié des salariés du Monde, ils sont sur lemonde.fr. Il faudrait vérifier, mais c'est de cet ordre-là. Ce qui n'était évidemment pas le cas il y a 20 ans. Mais Le Monde papier existe toujours. Ça a aussi fait émerger des nouveaux médias, donc qui sont sur des temporalités beaucoup plus longues. On a beaucoup ce qu'on a appelé à l'époque des MOOC, magazine book, mais qui sont des trimestriels. Un exemple type en France, si vous avez l'occasion de mettre le nez dedans, c'est 21. 21, c'est une revue. Donc ça, moi, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a encore la place et du lectorat et de l'audience pour des longs formats d'enquête, de reportage. On l'a aussi vu avec Mediapart dans notre registre, qui est un journal qui marche bien, Mediapart. Qui marche bien, ça veut dire qu'il a des abonnés. S'il y a des abonnés, ça veut dire qu'il y a une attente par rapport à ce type d'informations-là. Donc moi, je ne suis pas forcément inquiet de l'évolution. Je pense qu'il y a un public qui a envie d'avoir de la bonne information. Il y a beaucoup de journalistes et de médias qui sont prêts à le proposer. Après, on est aussi à une époque où il y a CNews qui réunit tous les soirs des plateaux de gens qui sont quand même là, essentiellement pas beaucoup des journalistes, mais beaucoup des gens qui sont là pour semer la division. Tout ça, c'est aussi des médias qui ont de l'audience. Donc c'est un champ de bataille, le journalisme, y compris idéologique. Donc il faudra être attentif à ça dans l'évolution, tenir les positions et faire attention à ce qu'on ne se fasse pas trop grignoter la liberté d'informer.
Merci pour votre réponse. Et pour vous, Monsieur Iglesias ?
Il ne faut pas avoir peur de l'avenir, jamais. Et en plus, l'avenir, c'est jamais ce qu'on imagine. C'est souvent quelque chose de très différent. Moi, l'inquiétude que je peux avoir pour la radio, pour le coup, c'est qu'on nous demande de faire beaucoup de choses aujourd'hui. On nous demande de faire de l'Internet, de remplacer les photoreporters, de faire des photos, de faire donc à la fois des textes pour le web, mais aussi des reportages. Et donc les journées ne sont pas extensibles non plus. Et si on fait ça, ça veut dire aussi qu'on grignote sur le temps de reportage, sur notre cœur de métier. Donc ça veut dire que la qualité servie sera peut-être un peu moindre, tout simplement parce qu'on aura moins de temps. En revanche, moi je suis d'accord avec Emmanuel Riondet, la chance d'Internet, c'est d'avoir permis de faire émerger à la fois ces formats longs dont il parlait, mais aussi un modèle comme Mediapart, qui était un journal qui n'aurait sans doute pas pu exister et s'il avait fallu le sortir sous format papier, parce que ça aurait demandé beaucoup plus de capitaux. S'il fallait plus de capitaux, il fallait peut-être de la publicité. S'il y avait de la publicité, il y aurait eu des lobbies économiques qui se seraient opposés à un certain nombre d'enquêtes qu'a pu sortir Mediapart, comme le fait aussi le Canard Enchaîné, qui, je vous le signale, comme Mediapart, n'a pas de publicité. Donc il faut faire juste attention à ce que les lobbies financiers, politiques, j'ajouterais religieux, ne mettent pas la main sur l'information.
C'est l'heure des remerciements. Merci à tous nos invités. Emmanuel Ridéan, journaliste pigiste, travaillant pour Mediapart, Médiacité et le Courrier de l'Atlas. Pierre Bisonlier, dessinateur de presse. Stéphane Iglesias, journaliste à Radio France. Alexandre Fontaine, journaliste et AED au lycée professionnel de Mireille.
Merci également à toute la classe de première bac pro, vente du lycée professionnel du Mirail, et à nos professeurs, Mesdames Lacaze, Le Quintrec et Pouillou.
Enfin, merci à Alexandra de Médias Communs et Philippe de la Ligue de l'Enseignement qui ont animé ce projet, sans oublier la DRAC Occitanie qui a financé les veilleurs de l'info. Vous pouvez réécouter notre émission sur Ondes Courtes, la web radio du Libre.
Merci, bravo à tous.
Merci.
De rien.
Bonjour, nous allons vous présenter Republix, un jeu de plateau conçu par l'École des droits de l'homme.
Mais faut pas oublier le point le plus important.
Ah oui, dis-le.
Republix est un jeu conçu dans le but de jouer en apprenant.
Et oui, quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant?
Ça prouvera à nos parents que les jeux peuvent être positifs sur les jeunes.
Et oui, surtout les parents peuvent aussi y jouer. Il ne faut pas oublier que ça reste un jeu familial.
Oui, tout à fait. Et petite info, le jeu sera en vente sur le site republix.fr et aussi, vous pourrez avoir une démonstration par les élèves du lycée professionnel Le Mirail qui s'occupe de la vente du jeu.
Et pour plus d'infos, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux.
À toi de jouer, joue le jeu!
Cette émission a été réalisée par l'association Médias Communs Occitanie en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement 31 dans le cadre du projet Les Veilleurs de l'Info, un atelier en éducation aux médias que nous avons réalisé au lycée professionnel du Mirail de janvier à mars 2021. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Le projet L'éveilleur de l'info est soutenu par la DRAC Occitanie.